Hey yo, this is the narcissist, the Euphrates Nomadic Massive, represent Montreal, the Basra. You're listening to the CKUT 90.3. Turn up your radios and turn off your televisions.
Bonjour, c'est Geneviève Le Tartre. Vous écoutez CKUT 90.3 FM à Montréal.
Hello and welcome to this new episode of Viewpoints. Boris Chassaigne here with you for the next half hour. On today's show, February is Black History Month, and we'll have a great story for you. Canada Post honors Marianne Shad, an activist, publisher, lawyer, teacher, and journalist who was influential in the Underground Railroad movement. A new stamp was revealed in honor of her accomplishments. One of her descendants shares her excitement with us.
She became the first Canadian woman and the first Black woman in North America to start a newspaper. And this is an incredible thing for someone to do in the 1850s. You know, at first she had to hide the fact that she was a woman publishing this newspaper, but eventually she came out and admitted that it was her and said, "We have broken the editorial ice." And of course, after that, she went on to do many other incredible things, too many to list, but my favorite is that she went back to school and became a lawyer at the age of 60.
Ottawa CAF's international student permits changes will mainly affect BC, Quebec, and Ontario. We'll turn to British Columbia to see what it means for the University of the Fraser Valley. And to Ontario, the Ludmilla Art Gallery, which focuses on women artists, closes its doors. The owner feels people just can't seem to afford luxury art anymore. Welcome to Viewpoints, local news nationwide.
Us on X at Canada LJI and listen to all our stories on frequencynews.ca.
Thanks for keeping us company, and we'll try to make it worth your while by kicking off the show with a great story as we lean into Black History Month. And a great piece of history we have for you, as Canada Post revealed on January 23rd, a new stamp in honor of Marianne Shad. Who is Marianne Shad? Well, she was the first Black woman in North America and the first woman in Canada to edit and publish a newspaper, the Provincial Freeman. But that's not all. She was also a teacher, lawyer, abolitionist, and an activist who made her mark in history, and all this in the 1800s. Shad, a Windsorite, won multiple awards and has been recognized in many ways for her role in Black history, with this stamp adding to that collection. Her descendants today are passionate in their own missions on Black history as well. One of those descendants is Irene Moore Davis, president of the Essex County Black Historical Research Society. Journalist Aisha Meehan is in Windsor, Ontario. She met with Irene Moore Davis about the unveiling of the Marianne Shad stamp. But first, she talked with Canada Post spokesperson, Director of Equity, Diversity and Inclusion, who says Marianne Shad continuously defied expectations, not only for gender, but for people of color and all women as well.
Canada Post spokesperson Brandy Ryan, Director of Equity, Diversity and Inclusion, shared her comments about why Canada Post chose to commemorate Marianne Shad.
Marianne Shad was chosen to be honored by a stamp because of her incredible impact and legacy on Canada's history. She was an incredible woman. She was an abolitionist, an educator, a lawyer, and an activist. And she dedicated herself to the advancement of Black people, women, and equality for all people. She also contributed greatly to education in Canada. So she continuously defied expectations, not only for her gender, but also for people of color. She launched her own newspaper in 1853 at a time when women were not welcome to do so. In fact, she was the first Black woman in North America and the first woman in Canada to edit and publish her own newspaper. And that newspaper, the Provincial Freeman, was well received by many people. She advocated for people to come to Canada, and she advocated for freedom and for education. So those are some of the reasons why we are so pleased to honor Marianne Shad.
Today, her descendants continue to make their mark on Canada, one of those descendants being Irene Moore Davis. On January 25th, CGEM spoke to Irene Moore Davis about Marianne Shad and how it feels to have her be commemorated in this way.
That has been very exciting for the Shad family, but it's also been just very exciting for a lot of Canadians who are deeply interested in Black history, in women's history, and in the story of this particular phenomenal woman. So Marianne Shad is someone who actually lives in Windsor, and that's another really cool component, that a woman from Windsor is on a Canadian postage stamp. So Marianne Shad came here in 1851 specifically because she wanted to assist the refugees from slavery who were coming across in large numbers at that point to Windsor. She became the first person to open up an integrated school in Windsor in 1851. She then wrote a book, and she's one of the very first women in Canada, let alone Black women in Canada, to write a book. And that was called A Plea for Emigration. She was trying to tell people why it was worthwhile and important to make their way here, even if they were free people of African descent, why this was a better place to live. She then opened up a newspaper in 1853, the Provincial Freeman. And when she did that, she became the first Canadian woman and the first Black woman in North America to start a newspaper. And this is an incredible thing for someone to do in the 1850s. You know, at first she had to hide the fact that she was a woman publishing this newspaper. She just used initials. But eventually she came out and admitted that it was her and said, "We have broken the editorial ice." And of course, after that, she went on to do many other incredible things, too many to list. But my favorite is that she went back to school and became a lawyer at the age of 60 and practiced civil rights law in the U.S. and tried to help underprivileged people attain their legal rights. So just an incredible woman, and it's just so great to see her being honored this way.
What is your relation to Marianne Shad exactly? Like, how far back in the family tree is she?
So Marianne Shad is the great, 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 great aunt of me. She was the older sister of my great-great-great-grandmother, Elizabeth Shad Shreve. And Marianne Shad is the great-great-great or great-great-great-great-aunt of a lot of people in southwestern Ontario, as well as in places nearby like Michigan. So there are many Shad descendants. But, you know, she is an incredible person, and it's so wonderful to see her recognized in this way. For a long time, she was kind of like our family's best-kept secret, or someone who was really only studied by people who really researched Underground Railroad era history or abolitionism. But she's been gradually becoming better known. And now, as a result of being on this Canada postage stamp that's being released to great fanfare, hopefully she will be someone that more people know about this year.
So was her name one that was well remembered in your family specifically, or did it take a while for even your family to realize who she was and what her connection was to Black history?
I mean, I think there's no single answer to that because there are really hundreds of Shad descendants around. In my particular family, we had a particular tradition of really sharing our family history. And so in my family, in which I grew up, my branch of the family, we really did focus on her, and we focused on her siblings as well and their exploits and other members of the family through the generations who had done amazing things, because in my particular branch of the family, that was a way to motivate and inspire ourselves to keep going and to keep pushing for change and to recognize that we come from some pretty cool people. But I hear from other distant Shad relatives, as recently as this week, that when they were growing up, they didn't hear about Marianne Shad Carey, that they learned about her in adulthood or whatever. Doesn't matter when we hear about her, though. I think that once somebody gets a hold of that story of Marianne Shad Carey, you just can't help being inspired.
For the process of making the Marianne Shad stamp, did Canada Post reach out to your family, or did your family maybe reach out to them? How did that happen?
So the proposal to actually bring forward a stamp came from a distant relative of mine, and that was really wonderful. So many thanks to her for submitting that proposal to Canada Post and doing the research to, you know, meet their standards and make sure that they had all the boxes ticked and so on. And so once that took place and once Canada Post had decided that they were going to proceed with the Marianne Shad Carey stamp, then last year, Canada Post did reach out to some representatives of the Shad family, including me, and allowed us secretly to see some sample designs and make some decisions. They provided us with quite a long list of potential stamp designs. We voted on them, each of us who had been asked to take a look. We were people who are Shad descendants, but who also have some knowledge of the history. And so once that happened, then we were given a short list and asked to rank those. And honestly, I didn't know until Tuesday at the official unveiling ceremony in Chatham which of those top three the stamp was going to be. So it was really exciting to see which one got chosen. And I'm very happy that it's the one that got chosen. It is a stamp that presents her looking forward, looking determined, but it presents her in 19th century clothing, mid-19th century clothing, looking like a woman of her time. There were some other designs that were very beautiful and very imaginative, but they were maybe a little too imaginative, if you know what I mean. So it was nice that this actually represents her, but it also really conveys her spirit and her vision.
You kind of touched upon this already, but how does it feel for you personally to know that she's being commemorated like this?
It's very exciting, but I mean, it's exciting for me mostly because as someone who has education and history as primary love, aside from literature, I'm just happy that more people are going to learn about her, that more kids and more teachers and more just ordinary Canadians of all kinds will at least have some sort of sense that this woman existed and what she did and why she's being honored in this way. Stamps are one way that we tell our culture, we tell our cultural story, we tell our country's history, and we kind of comment on what's important to us and what we value. We don't put someone on a postage stamp if they don't represent the values that we as Canadians hold dear. So I think it's really special that she is being recognized in this way. Marianne Fad Carey has had no shortage of recognition. She's a person of national historic significance in Canada with her own national historic plaque. She has a provincial heritage plaque. Her newspaper, the Provincial Freeman, has its own heritage plaque. She's got the full-length, beautiful sculpture here in Windsor at the University of Windsor, thanks to the artist Donna Main. She has a post office named after her in Delaware, where she was born. Her final house, where she lived in Washington, D.C., is a National Historic Landmark. She's been inducted into the Women's Hall of Fame in the U.S., like all of those kinds of things. She had a Google Doodle on her 197th birthday. But those things, as helpful as they are not quite the same as having a postage stamp. And I think it's just wonderful that she's going to be someone that a bunch of people will have in their homes. They will actually have these stamps in their homes. They will put her on letters and cards. And I think it's just wonderful. I always send out holiday cards. And this year I'm going to send out even more because I just can't wait to put her face on all of them. I do want to share one other thing that might be kind of interest. You know, other than King George and the late Queen Elizabeth, Marianne Shad and her father, Abraham Doris Shad, are the very first father-daughter duo ever in Canadian history to both have Canadian postage stamps in their likeness. So it's a very special honor for our family indeed. It was so nice to be at the unveiling with many, many Shad descendants and just to see the joy and the pride in everyone's faces. We know how important she was and all the incredible things she did, but it's just so nice that so many more people will learn about her now. It's always been fascinating to me how few people learn about Marianne Fad Carey in school. Hopefully that's going to change a little bit now. But for the last several years, she has been part of the Canadian citizenship exam. So it's interesting when I go and I give Black history presentations at the local agencies that serve new Canadians and so on, many of them have heard of Marianne Fad Carey because she's in part of the learning resources when you're studying for your Canadian citizenship exam. So people from overseas are learning about her to an extent that Canadian-born people who have gone through the whole school system here often have not.
Irene Moore Davis expressed how she felt her ancestor, Marianne Shad, was a remarkable woman who truly made her mark on Black history. She shared how she was extremely excited and grateful that Marianne Shad is now one of the Canadian stamps. The new stamp itself was released on January 23rd in Chatham, Ontario by Canada Post. The stamp was designed by Underline Studio and illustrated by Natasha Cunningham. This story was brought to you by the Local Journalism Initiative of Canada. You can hear the full episode on frequencynews.ca.
That was journalist Aisha Meehan. Welcome to the LGI team, Aisha, and thanks for this great story.
You're on the air with Viewpoints.
While we've been hearing a lot in the news about the federal government's cap on international student permits, a measure that could hurt not only the students themselves and their families, but post-secondary institutions as well. The cap will be set at approximately 360,000 people, approved study permits, a decrease of 35% from 2023. It is unclear how the change will affect post-secondary institutions in British Columbia, Ontario, and Quebec, for example. example. In a press release, the federal government stated that it will allot a portion of the total to each province and territory, weighted by the population. Journalist Charles Brockman in Abbotsford, British Columbia, spoke with Satwinder Kaur Bains, associate professor and the director of the South Asian Institute at the University of the Fraser Valley, about the cultural context of the change and further support that governments and institutions could provide to international students.
Dr. Bains, will this change affect UFV?
I think there is going to be a great impact. I can imagine that, you know, we've had a reliance on international education and students for a while. The government's bid to cap the numbers of students coming from, as international students from wherever in the world, is going to affect us as well, because we won't be able to just willy-nilly take whoever we want, because there were no caps and there was no regulations in terms of managing both the numbers as well as the fee structure. It sits outside the provincial mandate in advanced education, so that is going to make a bit of an effect, because the government has also said that students have to deposit now double what they were depositing before they got here. So I think it'll be price will be one, the cost of doing education abroad, and two will be the cap that government's going to put on.
40% of all international students granted permits in Canada come from India, more than any other country in the world. One of your many roles at UFV is advisor for Canada-India relations. Have you heard of any diplomatic response from the country of India?
I haven't seen a lot on the Indian scene. I've just seen some of the newspapers, like Hindustan Times, Indian Times, reporting what Canada is doing. But there hasn't been this great hue and cry from the foreign ministry or the Ministry of Education or External Affairs about this, because I think they see the numbers as quite small compared to their population. So this is going to affect certain regions. I think what you would probably want to see is a response by the governments of the state, like Punjab and Maharashtra and the Union Territory, them coming up and saying, now what? You know, if this pipeline dries up, then what do we have to provide for those people who are going to stay behind and access our education system and then get gainful employment from that?
The federal government has stated that this is part of an effort to deter bad actors in the international recruitment process and mitigate exploitation of the students. Do you believe that?
So I think these are really welcome initiatives by the government to control this burgeoning industry that has had challenges and had rotten apples. And, you know, we as a country, I think we have the tools and the wherewithal to fix that. I don't think it's insurmountable. It's something we should fix. And I'm glad at this bold step that the government has taken.
Can you elaborate on that? Would you say your connections within the Indian diaspora living here in Canada feel mostly the same way?
Yes, absolutely. I mean, all the circles that I'm in and we talk about these things, you know, they said some measures had to be put in place. There was like a free-for-all, you know, there were no bounds and boundaries. Initially, there were, if you remember, in the early 2000s, you know, you brought students in at a very high GPA, so you accepted students from had good grades. But what's happened is the numbers, the entry level numbers have dropped significantly. And anybody who wants to go at 17, 18 year old is coming abroad. And one of the challenges we're as a subcultural diaspora in Canada are noticing is that they're very young and they're the same age as domestic students, but their access to decision making is much lower. So they have never worked outside the home. They are not mature in terms of handling finances or running a household or managing on their own. They are struggling. And we've seen that here. You know, people have supported them, but I know they survive and they get through that hump and they come out at the other end and they're better for it probably. But it is a challenge for somebody who is, they become more and more insular. They tend to hang out with their own kind. You know, they go and work for a person that looks like them. And is that what Canada really wants to do? Like, do we not want students who become integrated into society at a high level and do well? Nothing wrong with having your culture and ethnicity and original language, all that, you should maintain that. But we also want a more pluralistic society that understands, you know, at one side, we have this immigration policy that for us is an economic policy that wants to bring people in to help us grow as a country. But on the other side, we haven't put in those kind of support systems for them to really feel as part of a Canadian society.
Are there other steps you would like to see taken to protect international students?
So lots of examples of what we could do and support students. I think one of the biggest ones is to do pre-orientation before they arrive, whether it's online or whether it's in person. But that we're able to do that. If you have 700 students, someone should be touching base with those 700 kids. They're coming here without knowing where they're coming or who they need to talk to. Students have arrived here with suitcases at the university looking for someone to help them find a place to live.
Whose responsibility should that be? The federal government, provincial, or UFE?
The federal government can only cap certain things because education is a provincial mandate. They can cap what they've done. They'll do what they can. But then the province has to be a willing partner. And I think it will be. I think all provinces want to have a better understanding and a better outcome from internationalization. And I think as a campus, we need to internationalize truly, not just say the words, but we need to, all of us need to be understanding of what these students bring with them and how we benefit from their, both their finances, but also their efforts. I don't think we have a true understanding of that.
Thanks to Dr. Satwinder Kaur-Bains. We'll be keeping an eye on this story as it progresses and as it relates to BC and UFE. This story was made possible by the Local Journalism Initiative and the Community Radio Fund of Canada. For this story and more like it, please visit frequencynews.ca.
Thanks to Charles Brockman and welcome also to the LGI team. So student visa caps will make newcomers think twice about coming to Canada, according to immigration lawyer Viviane Albuquerque. Federal Immigration Minister Mark Miller announced cuts to the International Student Visa Program, but also cuts to work permits for spouses of international students. Montreal immigration lawyer and former international student Viviane Albuquerque says she feels these are careless measures. The cuts will mainly affect provinces like BC and Ontario with higher numbers of international students. Quebec with fewer foreign students could take in more. Details on that with Katie Brady in Montreal, Quebec. Find her story on frequencynews.ca.
You're listening to Viewpoints with Boris Sasang.
Well, it's the end of the road for the Ludmilla Art Gallery. The gallery, which opened in 2019, closed its doors on February 2nd. For the past 5 years, the Ludmilla Gallery, located in the Commerce Building in downtown Peterborough, Ontario, was a commercial art gallery with a focus on female regional artists, says ex-owner Laurel Palick. Palick's goal was to prioritize female artists who are working outside of larger cities. She noticed that sales had been really dropping since November 2022, having some shows without a single sale. This was unusual for Ludmilla Gallery and made it clear to Palick that more people are unable to purchase luxury art. Laurel Palick spoke with Edward Sweeney about the gallery, the closure, and its 5 years of operation.
This February marks the end of a 5-year journey for Peterborough-based interdisciplinary artist Laurel Palick, owner of the Ludmilla Art Gallery, which will be closing at the end of the month.
And Ludmilla Gallery is a gallery. It's a commercial gallery. Not that I really wanted it to be that way, but that's just the reality, with a focus on female regional artists. So that is what I'm very much interested in. I really believe that female regional artists who are sort of away from the larger cities, sort of away from that kind of competition and influence, these women have sort of found their space, found their voices in their practice, and I want to know what they have to say. So that's the reason behind Ludmilla Gallery.
Palick opened the Ludmilla Gallery, located in the Commerce Building in downtown Peterborough, in February of 2019, and has made the decision to close the gallery after a decline in business and a change in how people consume art.
You know, really, I think since November of 2022, I've noticed sales were really dropping. I think the new economic situation that we're living in here in Canada has really made it very difficult for the sort of people I know. You know, the people I know are sort of regular people, you know, who, you know, have to pay mortgages or pay rent or buy food and don't have an excess of cash, you know, so it's been hard. So I've had some amazing shows. Most notably, I think in that November was a woman named Alice Olson Williams, who's an incredible quilter. And her work, she prices it very low. And she's quite a renowned artist. And I realized that you know, she really didn't, we didn't sell a lot. And that was sort of a bell that rang for me then. So I get carried on, and I had a few shows this year where there were no sales. And that's really rare. That's been very rare in the 5 years. So it's just become harder and harder to survive as a commercial gallery. But I sort of realized that the writing was on the wall, that right now art purchases are not the topmost of people's mind. So really, you know, I'm sort of a part of what we're seeing now. We're seeing restaurants closing, we're seeing stores closing. So I'm a sort of a part of that, the culling of the luxuries in our lives.
The conversation with Palak, initially focused on the closure of the gallery, quickly changed focus to more of a reflection of the past 5 years. And I wanted to know what kinds of challenges she's encountered.
I've had so many artists come. I was booked, almost 2025 was booked up. So the challenge is being polite and letting people know that I have a bit of a vision. So, or that I had a bit of a vision on who I was wanting to represent. So yeah, I think one of the challenging things were, I don't know how to say this politely. I would have a lot of men come into the gallery and, you know, I'd have to say, you know, that I wasn't interested in their art because I was really focusing on female work and their behaviors and their attitudes really, really sort of solidified why I really want to work with women and not necessarily the typical sort of cisgendered white male.
I also asked if Palak had a favorite artist or art installation that was displayed at the Ludmilla Gallery. And though she could not pick a favorite, there were some highlights.
You know, the one that there's an artist in town named Carolyn Code, whose show was going to open on March 2020, right when we literally had 1 week. And she does really interesting installation work. And I love her work. In this case, she had a big papier-mâché pink structure that was about maybe 2 by 3 feet that was against the wall, and it had these pink discs radiating off of it. It was a beautiful, it was a great installation piece, and it sort of looked like a virus. It looked like a nose sneezing in many ways. That was kind of a little prescient and unusual and strange and wonderful, and I always sort of regretted that people really weren't able to see that show.
And though the Ludmilla Gallery is closing, Palak was a prominent figure in the Peterborough arts community before its opening, and will continue to be afterwards, as they find a way to engage with art in a way that is better suited to the community's needs and wants.
Well, I think, you know, I also teach a lot, or I facilitate art a lot with kids and go into schools, and I think it's really... It's kind of radical in an anti-capitalist way, I think, to create things instead of buy things. I think it's great for our mental health to feel that we're connected to our own emotions, that we're expressing them, that we're even exploring them. I think it makes I think the arts, both creating and enjoying them, just makes us wholer people. We're just better rounded. We're well rounded. We're able to sort of connect to things like our empathy and our critical thinking, these things that make us an interesting species to be, you know, on the planet. You know, some years ago, I started something called the Alley Waltzes, where I'd take theater outside and bring people to see these different plays, these performances. And I loved it. And at the time, it was sort of a response to how expensive renting theaters could be and how we were sort of lacking in those venues. So I feel like, yeah, I think I've got some plans up my sleeve come July.
And we wish you all the best, Laurel Palak. And this completes this edition of Viewpoints, thanks to the newest additions to our LJI team, Aisha Mayan in Windsor, Katie Brady in Montreal, Charles Brockman, and veteran Edward Sweeney. Our national editors were Victoria Fenner and Maureen McEwen. Thanks for your help this week. Viewpoints is brought to you by the Community Radio Fund of Canada with the precious help of this radio station. I'm Boris Chassagne, your host and producer. It was nice to have you with us this week. And until the next, ciao. Thank you.
I'm Pamela Hassan in Smithers, BC, and you are listening to Viewpoints.
Girl, Miss Ben, and it's Black History Month, so you know we'll be kicking it every Tuesday right here on CKUT 90.3 FM. Every Tuesday from 3 to 5, I bring to you Heal, Black Girl Heal, where we discuss some in-depth conversations with those that got some things going on within the Black community. And let's not forget about all of the plentiful activities that you need to keep up to date with. So do not forget, each and every Tuesday for the month of February, right here on CKUT 90.3 FM.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Point de vue. Boris Chassaigne avec vous pour la prochaine demi-heure. Aujourd'hui, 30 jeunes passent 24 heures dans la rue pour soutenir les sans-abri.
C'est un peu froid, mais comme j'ai bien dormi, je suis fatiguée, mais je fais ça pour pouvoir commencer pour les jeunes qui sont pas comme chanceux comme moi. Avoir une famille puis avoir une maison d'aller à chaque soir.
Le gouvernement fédéral met la pédale douce sur l'immigration, mais ouvre la porte à un plus grand nombre d'immigrants francophones hors Québec.
C'est la première fois que le gouvernement fédéral se dote d'une politique pareille. Ça reste quand même un premier pas pour l'immigration francophone.
Des ambulanciers du Québec lancent une web-série pour parler de leur quotidien et de leurs défis.
C'est toutes des paramédics qui ont laissé la route pour capter leurs patients. Tu sais, en allant chercher tout ce monde-là, qui connaît la réalité de la route, de captiver le monde, puis de montrer c'est quoi notre travail.
Le fer de haute pureté, la nouvelle coqueluche du plan pour une économie verte du gouvernement du Québec, les minières s'en réjouissent. Et prendre la mer pour terminer son secondaire, une élève de Dartmouth en Nouvelle-Écosse rejoint le programme Class Afloat. Et on est jaloux.
J'aimerais être une personne qui a vécu beaucoup de choses. J'aimerais être quelqu'un qui est riche en souvenirs puis en expériences, comme une personne qui a juste vécu plein d'affaires, qui a une compréhension globale du monde.
Et le mois de février, c'est partout au pays le mois de l'histoire des Noirs. On se rendra à Winnipeg, au Manitoba. Point de vue, l'info locale partout au pays.
Suivez-nous sur X @CanadaLJI.
L'immigration est dans l'actualité partout au pays. Les gouvernements provinciaux qui demandent au fédéral de mettre la pédale douce sur ses objectifs en matière d'immigration au pays, prétextant souvent la pénurie de logements tout en se plaignant avant cela de la pénurie de main-d'œuvre. Demande entendue puisque Ottawa a révisé à la baisse ses quotas, mais le gouvernement fédéral se montre par ailleurs plus ambitieux en matière d'immigration francophone en milieu minoritaire et va, à ce chapitre, relever ses cibles. Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Mark Miller, le ministre fédéral, qui présentait il y a quelques jours sa nouvelle politique en matière d'immigration, note que le fédéral veut ouvrir la voie à un plus grand nombre de francophones au pays. Ottawa, qui dit vouloir doubler ses quotas d'immigrants francophones hors Québec d'ici 2026 en les faisant passer de 4 à 8%. Notre nouveau collaborateur Daniel Biru, qui couvre pour nous l'actualité des territoires du Nord-Ouest, a préparé ce qui suit.
Avec sa nouvelle politique en matière d'immigration présentée la semaine dernière, le gouvernement fédéral vise à accueillir un plus grand nombre de francophones au pays au cours des prochaines années. L'objectif initial du projet sera de passer de 4,4% d'immigration francophone à 6% en 2024, à 7% en 2025 et à 8% en 2026, en assurant une répartition à travers les provinces canadiennes à l'extérieur du Québec. Parmi les mesures que le ministre de l'Immigration, Mark Miller, a dévoilées en conférence de presse au Nouveau-Brunswick la semaine dernière, on retient notamment le nouveau programme d'appui à l'immigration francophone et le renouvellement et l'expansion de l'initiative des communautés francophones accueillantes. En conférence de presse, le ministre Miller a parlé de l'idée de créer un corridor d'attraction pour cette tranche de l'immigration.
Nous prenons aussi d'autres mesures en vue d'accroître les possibilités ouvertes aux nouveaux arrivants qui s'établissent à l'extérieur du Québec. Cela commence par le renouvellement et l'élargissement de l'initiative des communautés francophones accueillantes. Sachez que 14 communautés canadiennes continueront de recevoir un financement qui leur permettra de favoriser l'intégration des nouveaux arrivants d'expression française qu'elles accueillent.
Le renouvellement de l'initiative des communautés francophones accueillantes assure le financement continu de 14 localités canadiennes, dont Yellowknife. Ces initiatives font partie du plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 du gouvernement du Canada, qui prévoit plus de 137 millions de dollars d'investissement.
Cette initiative rendra les programmes d'immigration plus accessibles en vue d'augmenter le nombre de candidats d'expression francophone sélectionnés, ce qui répondra ainsi mieux aux besoins de main-d'œuvre d'expression française et bilingue des divers secteurs de l'économie du Canada. Les mesures que mon ministère mettra de l'avant inclut notamment les efforts liés à la promotion et au recrutement renforcé au Canada comme à l'étranger et la mise en œuvre d'un nouveau programme et de mesures dédiées à l'immigration économique francophone.
Appelée à s'exprimer sur le sujet, la Fédération franco-ténoise a exprimé son enthousiasme par rapport à cette annonce. Si elle salue la prise en charge du fédéral à cet effet, la responsable des communications, Mélika Malabo, demeure cependant plutôt méfiant de certains détails quant aux objectifs prescrits par l'annonce.
On salue justement cette avancée parce que c'est une première, c'est la première fois que le gouvernement fédéral se dote d'une politique pareille. Donc ça reste quand même un premier pas pour l'immigration francophone.
Parmi les mesures annoncées, la Fédération se dit particulièrement ravie de l'arrivée du programme d'immigration économique francophone.
Là où on reste un peu sous notre faim, c'est par rapport aux données chiffrées. On ne sait pas, on n'a pas d'objectif précis, on n'a pas d'objectif chiffré et on ne sait pas comment tout ça va se matérialiser. Donc on a une annonce, donc c'est déjà un point positif.
En plus des 14 localités canadiennes actuelles qui bénéficieront de ce nouveau programme, Ottawa prévoit en ajouter 10 supplémentaires au cours des prochaines années, qui seront encouragés à mettre de l'avant des environnements francophones favorables aux immigrants au sein de leur communauté.
Vous écoutez Point de vue, l'info locale partout au pays. Boris Chassagne qui vous accompagne. Une trentaine de personnes ont passé 24 heures dans les rues du centre-ville d'Ottawa pour témoigner leur solidarité envers les sans-abri. Ils participaient les 25 et 26 janvier dernier au défi qui porte le même nom, 24 heures dans les rues, lancé par l'organisme Opération Rentrée au foyer. L'idée étant de soutenir les jeunes et les sans-abri par le truchement d'une campagne de financement, le défi 24 heures dans la rue. Les volontaires qui ont pris part au défi ont dû composer avec le bruit constant, même la nuit, et avec une pluie qui est arrivée tôt le matin. Ici, les témoignages de deux personnes qui ont décidé de participer au défi. Marie Hillès les a rencontrés.
We spent last night in an alley behind a restaurant in downtown Ottawa. We brought in a whole bunch of wooden pallets to put on the floor.
Dave Schellenberg, journaliste et membre du conseil d'administration de Opération Rentrée au foyer, explique que dans le cadre d'un campagne de financement, lui et une trentaine d'autres personnes viennent de passer la nuit de jeudi à vendredi dans la rue, au centre-ville d'Ottawa.
I'm truly appreciative of how hard the staff works to find...
L'organisme, comme le souligne Dave, travaille fort pour venir en aide à des centaines de jeunes à risque et sans abri. Il explique aussi que pour lui, ces 24 heures passées dehors étaient l'occasion de réaliser ce que c'est d'être un sans-abri à Ottawa, surtout pendant cette période de l'année quand il pleut et il fait très froid.
What it is that it, what the experience is like to be homeless in Ottawa, and this was an opportunity in a time of year when the weather is really horrible to truly understand what it is and the importance of being able to find homes for everybody.
Adrienne Marsh a 17 ans, elle vient d'Orléans. Elle a décidé elle aussi de participer à ce défi.
J'ai passé la nuit dehors, puis j'ai comme dormi toute la soirée. C'était un peu froid, mais comme j'ai bien dormi,
Je suis fatiguée, mais je suis comme prête pour finir la journée. Je fais ça pour voir comment c'est pour les jeunes qui sont pas comme chanceux comme moi. Avoir une famille, puis avoir une maison d'aller à chaque soir. Ma meilleure amie que je fais avec, elle était sans abri toute ça comme jeunesse. Alors, à cause qu'on parlait, puis tout, j'ai décidé à faire avec elle pour voir comment elle a vécu sa vie. Puis comment les enfants dans notre communauté comme vit aussi. Elle était 14 ans quand elle était, puis c'était dur pour elle. Elle raconte tellement d'histoires qui sont vraiment tristes à comme savoir que ça arrive dans notre pays, puis dans notre comme capitale, mais c'est la vérité de comme le Canada aussi. Ça nous aide à juste comme sensibiliser que comme même s'il y a des problèmes autour du monde, il y a aussi comme des problèmes dans notre propre pays qui arrivent, puis on doit comme les travailler dessus, puis essayer de les comme aider.
Après ces 24 heures, Dave souligne que ce qu'il attend le plus, c'est d'enlever les 8 couches de vêtements qu'il porte.
The 8 layers of clothes that I'm wearing. I got dressed in this 24 hours ago and have not taken anything off, and I would really like to get all this stuff off right now.
Il mentionne quelques histoires qu'il a entendues durant la nuit et qu'il a appris l'importance de ne pas poser de questions, mais de juste écouter. D'être présent pour ceux que vivre 24 heures dans la rue, c'est leur quotidien.
Things we have learned to do at these events is wait for somebody to tell their story, not ask for them to tell their story, because a lot of people just don't want to tell the story again and again and again. So when you see somebody and you're in our situation where you're here to help, you just become friends with them, you smile, you can't ask because perhaps they just don't want to tell it.
C'était un reportage de Marie Illes pour IGL à Ottawa.
La coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie au Québec, sur la rive sud de Montréal, a lancé en grande pompe une web-série intitulée « De jour comme de nuit », une web-série qui nous parle du quotidien des ambulanciers paramédicaux. Le lancement a eu lieu le 25 janvier dans un cinéma de la ville de Brossard, en banlieue de Montréal, devant une salle remplie d'ambulanciers. Notre nouveau collaborateur, oui, on en ajoute un autre sur la rive sud de Montréal, Antoine Hérichet, était sur place pour assister à l'événement et nous a ramené ce qui suit.
Connaissez-vous le quotidien d'un paramédic? Désormais, il est possible de suivre leurs actions envers les citoyens avec la web-série « De jour comme de nuit ». 3 épisodes pour un total d'une heure et demie, réalisés par la CETAM, la coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie. Le lancement s'est déroulé jeudi 25 janvier au Cinéplex Odéon de Brossard au Québec. Un événement fort en émotion pour le réalisateur, mais avant tout paramédic, Alexandre Vincent.
C'est définitivement une fierté. J'ai présenté ça à tous mes collègues avec qui je travaille sur la route. Je suis tellement fier parce qu'il y a une belle réception. Puis je suis content parce que le monde sont fiers de voir ça. Tu sais, ils se disent, dans le fond, c'est notre travail là, qu'on montre à tout le monde.
Construire une web-série entièrement produite par des paramédics était justement un critère essentiel pour le réalisateur.
C'est ce qui fait la beauté de ce projet-là. C'est tous des paramédics qui ont laissé la route pour capter leurs patients. Tu sais, en allant chercher tout ce monde-là qui connaît la réalité de la route, ben c'était beaucoup plus facile pour nous de... Hey, on sait où s'en va, là. Fait que, tu sais, ça s'est super bien passé, les tournages.
Alors que le quotidien des services de police et des pompiers sont bien connus du grand public, celui des paramédics reste davantage dans l'ombre. Une mise en lumière appréciée par Renaud Pilon, un paramédic depuis 10 ans qui s'est prêté au tournage.
C'est une belle opportunité pour faire rayonner le métier. Pour nous, c'est très important, principalement pour le public, parce que le public ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on fait. Il y en a encore beaucoup qui pensent qu'on va à leur domicile, ils sont en douleur, puis go, 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 on s'en va à l'ambulance, on s'en va à l'hôpital. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi on ne va pas plus vite?
La web-série met l'accent sur plusieurs compétences clés du métier. On y retrouve l'importance de la cohésion, de l'empathie ou encore du sang-froid. Mais ce qui se démarque également, c'est l'importance accordée à la santé mentale.
On a pris conscience que le stress post-traumatique, c'était quelque chose qui était très courant dans le métier de paramédic. Si on compare, tu sais, avec la population normale qui, dans une vie, ils peuvent voir 2-3 situations potentiellement traumatisantes, dans la carrière de paramédic, on parle plus de 5 à 600. D'où une importance flagrante de ventiler, d'avoir une personne à qui parler.
Et pour que cette web-série puisse exister, l'ensemble des paramédics ont pris sur leur temps de travail. Au total, 7 jours de tournage ont suffi pour capter toutes les images. Alexandre Vincent, qui s'est également occupé du montage des épisodes, ne compte en revanche plus les heures.
Je montais aléatoirement. C'est-à-dire que des fois, je finissais de travailler, j'allais m'installer, je faisais mon petit montage, mes enfants dormaient, ma blonde aussi, puis là, je pouvais en profiter. J'avais l'impression que c'était comme une série grandiose que je montais, parce qu'à chaque fois, à chaque scène, je disais, ah, je vais en faire encore. Fait qu'il y a beaucoup de soirées où je me suis couché aux petites heures du matin.
Avec cette web-série, le réalisateur espère maintenant toucher le plus de citoyens possible.
Ce qui est prévu, c'est qu'elle soit accessible. Pour le moment, la diffusion, ça va être sur YouTube. Le but, c'est ça, c'est d'aller chercher, de captiver le monde, puis de montrer c'est quoi notre travail.
Alexandre Vincent est d'ailleurs ouvert à l'idée de réaliser d'autres épisodes. C'était Antoine Richet dans le cadre de l'initiative de journalisme local.
Alors, si on vous proposait de poursuivre vos études sur un bateau qui navigue dans les mers chaudes et qui descend jusqu'en Amérique latine ou ailleurs, et qu'on vous disait que le voyage allait durer 10 mois, votre réponse serait quoi? Ben, moi, j'ai déjà la mienne. Je retournerais même sur les bancs d'école pour signer le registre de bord. Poursuivre ses études à bord d'un navire, le rêve d'une élève de la Nouvelle-Écosse. Elle s'appelle Mika Armstrong. Elle vient d'être sélectionnée pour participer à une année d'études grâce au programme Class Afloat. Mika Armstrong étudie à l'école secondaire Mosaïque, une école francophone de Dartmouth en Nouvelle-Écosse. Elle va passer sa 12e année en mer si tout se passe bien. Class Afloat est un programme néo-écossais qui propose à des étudiants de poursuivre leurs études le temps d'un semestre ou d'une année complète à bord d'un navire. Mika Armstrong a passé avec succès donc des épreuves de sélection et ambitionne de partir à bord de l'Alexander von Humboldt II à la rentrée prochaine. Il lui reste toutefois un défi de taille, le financement, mais oui, le financement qui lui a donné l'idée de créer une cagnotte participative. Ce n'est pas gratuit hein, de passer une année en mer, c'est près de 45 000 $ américains. Ici, un extrait donc de sa conversation avec Julia Chenu à Halifax.
En fait, je vais faire 2 semestres, donc je vais faire mon année scolaire au complet sur le bateau. Puis c'est juste comme des cours académiques normales de secondaire. Il y a les cours de maths, sciences, français, anglais. Mais leur programme de sciences politiques est vraiment bien connu aussi parce que c'est comme politique globale, puis comme leurs sciences humanitaires sont bien connues. Donc, je planifie prendre plusieurs cours dans ce domaine-là, en effet. Et oui, on apprend à naviguer le bateau. C'est un gros voilier, c'est le Alexander von Humboldt II, puis c'est un bateau allemand. Il y a quand même comme un crew dessus, bien sûr, en cas d'urgence, mais à part de ça, c'est vraiment les élèves qui apprennent à naviguer le bateau. Donc, ouais, on est comme des pirates, quelque chose, donc ça va être le fun.
Comment est-ce que l'idée t'est venue en tête?
C'est déjà monté sur mon Instagram, j'ai vu des publicités pour ça, puis j'ai aussi une amie qui est en train de le faire. Mais on n'est pas super proches, donc je ne l'avais pas parlé, ça faisait longtemps. On avait juste fait des camps d'été ensemble il y a quelques années. Puis j'ai vu sur son Instagram à elle qu'elle faisait, puis j'étais comme « Oh wow, c'est vraiment chouette comme programme, comme ça doit pas être accessible à tout le monde, parce que c'est tellement comme hors de l'ordinaire, j'ai jamais entendu parler, je sais pas comment qu'elle a trouvé ça. » Donc j'ai un peu oublié à propos de ça. Mais là, quand on est allé à une foire avec notre école, à l'école du sommet, pour voir les universités, puis les collèges, puis tout, il y avait un kiosque pour Class Afloat. J'ai vu ça, puis comme leur gros arrière-plan, c'est leur bateau, puis ils disent « éducation en mer, voyager autour du monde », puis j'étais comme « oh wow, comme ça c'est incroyable ». Donc c'est comme ça que j'ai vraiment vu que c'était accessible à tout le monde, puis c'est ça qui m'a vraiment comme inspirée à appliquer pour le programme.
Chez nos confrères du Courrier de la Nouvelle-Écosse, à qui tu as donné une interview il y a quelques jours, tu as dit que ce programme notamment s'alignait avec tes valeurs, mais aussi avec la personne que tu souhaitais devenir plus tard. C'est quoi cette personne que tu as envie d'être plus tard?
J'aimerais être une personne qui a vécu beaucoup de choses, parce que je dis tout le temps comment j'aimerais être quelqu'un qui est riche en souvenirs puis en expériences. Donc, c'est ça que je veux être, comme une personne qui a juste vécu plein d'affaires, qui a une compréhension globale du monde, puis de tout ce qu'il y a comme autour du monde, puis toutes les réalités auxquelles les gens font face. Mais aussi, je veux être comme... J'aimerais ça un jour écrire un livre. Puis j'oublie c'est qui, mais un de mes profs, il y a des années, a dit que les meilleurs écrivains sont ceux qui ont vécu des affaires. Je veux vraiment être quelqu'un qui a comme une banque d'histoires pour... comme raconter. Je veux être une personne intéressante. En effet, c'est ça. C'est ça le but ultime. Peut-être que je ne vais pas être riche en possession ou en argent, mais je vais être riche en souvenirs puis en expérience.
Riche en expérience, c'est justement des expériences que tu vas en vivre parce qu'il y a des missions humanitaires qui sont proposées, ouais. Des visites et des activités bénévoles. Est-ce que tu en sais déjà un petit peu plus sur ce qui t'intéresserait particulièrement?
Je ne suis pas sûre, en effet, parce qu'on n'a pas encore reçu notre itinéraire pour l'année prochaine. Chaque année, les programmes qui sont offerts puis les opportunités bénévoles sont vraiment comme créés pour les endroits où on visite, comme les ports plus pauvres où on va, je sais pas, je suppose qu'on fait des choses pour aider avec les gens de la communauté ou peut-être même juste nettoyer les océans parce qu'ils sont vraiment présents comme dans l'environnement, comme ils font beaucoup de choses pour aider avec l'océan puis la qualité environnementale autour du monde. Je ne suis pas sûre exactement ce qu'on ferait, mais oui, en effet, je vais vivre beaucoup d'affaires, puis je vais rencontrer beaucoup de monde intéressant qui proviennent de plusieurs arrière-plans en les aidant avec les programmes qui sont offerts par Class of Flow. Ça ne me fait pas peur, l'idée de me dépayser, puis de laisser les gens auxquels je suis proche derrière, parce que s'ils sont vraiment proches de toi, ils vont rester proches de toi pour toujours, puis ils vont t'aimer n'importe qui que tu deviens, puis ils vont te supporter dans tes aventures, puis c'est ça que ma famille fait, puis mes amis proches. C'est pas quelque chose qui devrait m'empêcher de vivre une expérience telle que Class of Float, parce que je vais rencontrer tellement de nouveaux mondes, en fait, puis du monde qui vient de partout sur la planète, en plus, donc... Quand j'ai des rêves ou des buts, je fais n'importe quoi pour les atteindre. Comme peu importe le montant d'effort puis de travail que ça prend pour les réaliser, je vais faire ce qui est nécessaire pour les accomplir.
Eh bien, Mika, que de bon vent on te souhaite. Quel projet magnifique que de naviguer sur un grand voilier. Mika qui doit encore lever des fonds en vue de son voyage de 10 mois.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chéticamp en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.
Et on prend rapidement le temps de vous dire qu'on a une foule de sujets qui n'attendent que vos yeux et vos oreilles sur notre site fréquenceinfo.ca. Vous dire par exemple que la semaine dernière, nos journalistes ont fouillé près de 70 sujets. On s'est promené dans les maritimes, dans les prairies, les territoires, au Québec et ailleurs au pays. On a encore cette semaine des dizaines de topos qui prennent l'antenne et le web d'assaut. On parle par exemple du mois de l'histoire des Noirs à Yellowknife et en Alberta avec Éline Coulou qui a interrogé la francophonie albertaine plurielle. On parle d'économie en Ontario, de la tradition de la fête de la Chandeleur en Nouvelle-Écosse, des services de garde francophones à travers le pays, du spectacle de Luc Leblanc à Miramichi, j'en passe. Tout cela, ça se passe bien, sur fréquenceinfo.ca. Vous avez envie de nous écrire? Bien, ça se peut. Oui, ça se peut. Radio@fréquenceinfo.ca. Radio@fréquenceinfo.ca. Et on célèbre en février partout au pays le mois de l'histoire des Noirs. Et notre nouveau collègue à Winnipeg, au Manitoba, Gaël Mpoyo, s'y est intéressé. Il nous parle dans son premier reportage pour nous d'une expo intitulée « Noirs et fiers » présentée cette semaine au Théâtre du Cercle de Molière. Ce sera l'une des activités d'ailleurs présentées dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs dans ce théâtre. Gaël Mpoyo.
Xavier Mouchipai est un artiste peintre originaire de la République démocratique du Congo. Il présentera une exposition de tableaux uniques qui met en scène la véritable essence de la communauté noire. Le peintre, qui est lui-même noir et fier de l'être, souhaite transmettre une impression de confiance à travers ses œuvres.
Cette exposition peut être une très bonne opportunité pour moi de passer un message et de donner l'histoire, pas de la façon que l'histoire est comme partagée aujourd'hui.
Ces créations représentent la beauté, la force, la dignité, en éliminant tout complexe d'infériorité ou de supériorité. Son objectif est d'inspirer courage et motivation, afin que chaque individu se sente aimé et valorisé.
Et le message qui est souvent comme dans ce que j'ai fait, c'est ça dépend de l'émotion que j'apporte dans la réalisation. Donc, je pourrais dire sur le plan comme du dessin, normal, un dessin simple, les gens vont plus voir les portraits, les figures humaines. Mais derrière ces figures, il y a des émotions que je transmets parce qu'en tant qu'une personne, une personne est un peu plus influencée par ce qu'il a comme émotion. Et grâce au tableau, je parviens à aller ça, avec ma technique artistique.
Wilgis Agosa, arrivé du Bénin au Canada il y a 10 ans, Wilgis s'est intégré en embrassant la culture manitobaine et en acceptant les différences de son prochain.
S'il y a des défis avec les communautés noires, on va pas le régler seul. Je vais pas rester dans mon coin, dans ma petite communauté ethno-culturelle pour le régler. Il faut d'autres communautés ethno-culturelles, mais il faut également la communauté au sens large. Arrêtons la discrimination, arrêtons différents.
Océane Guagou, médiatrice culturelle au service de communication au TCFM, pense que le mois de l'histoire de noir est devenu un élément important des initiatives, un programme multiculturel et antiraciste.
Pour nous, c'est l'occasion de célébrer toutes les communautés et toutes les identités. C'est important pour le théâtre puisque ça fait partie aussi de nos autres mandats, de nos engagements dans cette histoire de dialogue. On part à la rencontre de l'autre et on l'invite à participer à des événements d'importance culturelle. Et c'est pour moi personnellement, les mélanges culturels font la grande culture d'un pays. Et plus on accepte l'autre et plus on s'ouvre à la culture de l'autre, plus on crée cette culture hybride et magnifique qui crée l'avenir d'une culture propice et importante.
L'histoire du noir fait partie de l'histoire du Canada. Elle est un élément essentiel de l'histoire canadienne. Elle est claire et permet de comprendre comment les sociétés canadiennes et nord-américaines se sont formées et comment elles fonctionnent aujourd'hui. Winnipeg, Gaël Mpoyo, dans le cadre de l'initiative des journalistes locaux.
Et en terminant, on va vous parler du fer de haute pureté qui sera l'une des pierres angulaires du plan directeur en transition en innovation et efficacité énergétique du gouvernement du Québec et au cœur de sa stratégie de développement d'une économie verte. Ce minerai de fer de haute pureté entre par exemple dans la fabrication d'éoliennes, de barrages hydroélectriques, de panneaux voltaïques, de véhicules électriques par exemple. Ce fer donc de haute pureté est aujourd'hui considéré comme un minerai critique et stratégique. On en compte maintenant 28 au Québec. Québec qui veut se positionner à l'échelle mondiale comme un acteur vert de premier plan. Voilà qui fait le bonheur de deux des grandes minières qui exploitent ce minerai au Québec, ArcelorMittal Mine et Minerai de fer Québec. Les détails avec Élisabeth Séguin au cœur de la ville minière de Fermont.
La ministre des Ressources naturelles du Québec, Maïté Blanchette-Vézina, a présenté la semaine dernière la liste mise à jour des minéraux critiques et stratégiques qui comprend maintenant le fer de haute pureté. Pour elle, ce matériel joue désormais un rôle clé pour l'économie québécoise et dans le plan de transition énergétique. On peut écouter Mme Blanchette-Vézina.
Nous, on devient un joueur important, incontournable dans la décarbonation des économies mondiales. On développe des filières, puis il y a des filières qui sont déjà existantes, l'aluminium, le fer de haute pureté. Donc, on souhaite continuer de les mettre de l'avant parce qu'ils sont critiques dans l'approvisionnement mondial, par exemple, ou qu'ils sont stratégiques d'un point de vue québécois dans l'économie et l'écosystème de notre économie régionale. Ça permet que le Québec demeure un chef de file et un leader en matière de minéraux critiques et stratégiques.
Cet ajout du fer de haute pureté permettra donc au Québec d'avoir des retombées à divers égards. C'est aussi le cas pour les sidérurgistes comme ArcelorMittal et Minerai de fer Québec qui prévoient se positionner favorablement sur les marchés internationaux grâce au soutien de la province. Le fer n'était initialement pas compris dans la liste des minéraux critiques et stratégiques qui ont été dévoilés en 2020 par Québec. Son ajout s'est fait de pair avec l'évolution des critères qui s'adaptent selon les besoins du gouvernement et du marché, comme l'explique la ministre des Ressources naturelles.
Pour que ça ait une importance économique qui est significative pour des secteurs clés de l'économie québécoise, c'est ceux qui sont indispensables à la mise en œuvre des grandes politiques du gouvernement du Québec. Puis là-dessus, bien, il y a des choses qui bougent, qui évoluent. Terre-Neuve venait d'ajouter également sur cette liste le fer de haute pureté. Et nous aussi, on était en réflexion pour l'ajouter. Et en analysant, le comité nous a fait une recommandation de l'ajouter puisqu'il devenait critique et stratégique pour le Québec d'un point de vue économique notamment.
Ayant mis à jour sa liste des minéraux critiques et stratégiques, le gouvernement propose aussi une mise à jour des actions qui serviront à soutenir le développement des projets miniers et aussi à relever les défis environnementaux qu'ils pourraient représenter. À Fermont, la valorisation du fer comme minéral critique et stratégique est profitable pour les deux minières qui exploitent ce matériel. ArcelorMittal et Minerai de fer Québec ont justement salué cette annonce la semaine dernière, précisant qu'elle témoigne du rôle significatif que le fer de la fosse du Labrador aura à l'avenir dans la décarbonation des économies du Québec et même au-delà des frontières du pays.
Eh bien voilà, c'est déjà tout pour nous à Point de vue, une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. On remercie nos journalistes cette semaine, Julia Chénu, Antoine Richer, Daniel Biru, Marie Hillès et Élisabeth Séguin, Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci d'avoir été là, restez à l'écoute de l'émission qui suit. À la semaine prochaine, ciao!
écrivez-nous radio@frequenceinfo.ca. radio@frequenceinfo.ca.
Geneviève Le Tarte, vous écoutez CKUT 90.3 FM à Montréal. Ça, c'est fort!